Loué soit le nom du Seigneur pour sa présence. Dieu est déjà présent. Ceux qui y sont sensibles le ressentent. Nous sommes ici au nom du Seigneur et il a fait cette promesse là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. C'est ce qu'il a dit et il tient ses promesses. Nous pouvons compter sur lui. Rendons grâce à Dieu qu'il y ait encore quelque chose. Par exemple, la parole de Dieu, le Seigneur, des choses sur lesquelles on peut compter, dont on sait avec certitude, il en est ainsi, il ne peut en être autrement. Nous n'avons qu'un seul souhait, que Dieu soit véritablement glorifié. Que ces trois choses, le sang de l'agneau, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu puissent agir en nous. Car il est écrit, il y en a trois qui rendent témoignage, l'eau, l'Esprit et le sang. Et nous sommes ici pour nous baigner dans la parole. Nous sommes ici pour faire l'expérience de la puissance rédemptrice et libératrice du sang de l'agneau. Et nous sommes ici pour recevoir également l'Esprit de Dieu. Que ce soit un moment de consécration, un moment comme cela vient d'être mentionné, où nous sommes nourris. Il y a en effet des gens qui ont faim tous les jours et qui mangent quotidiennement. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais la plupart ont chaque jour une nouvelle faim, déjà ici-bas dans les choses terrestres. Et il en va de même sur le plan spirituel. Nous avons faim de Dieu. Et que pourrions-nous souhaiter de plus que de pouvoir déjà voir qu'il ne vient pas seulement à nous par la parole, mais aussi par sa puissance, dans sa puissance. J'ai pensé au sermon sur la montagne, lorsque la parole a été lue, venez et recevez gratuitement. C'est dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 6. Matthieu 5, verset 3 à 6. Bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur sera donné. On vient de faire la comparaison suivante. Il y a des gens qui veulent prolonger leur vie à tout prix. Et nous en avons particulièrement entendu parler à propos de la transplantation cardiaque. Celui qui a beaucoup d'argent passe avant les autres qui n'en ont pas autant et ils veulent vivre plus longtemps, y compris ce prince, pourquoi pas. Dieu ne prolonge pas notre vie terrestre. Dieu nous donne la vie éternelle. Et cela par grâce, par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si nous pouvons recevoir cela gratuitement, c'est uniquement parce que le prix a déjà été payé. Et ce fut un prix élevé, un prix coûteux, le prix du sang de l'agneau. Car il est écrit dans l'épître de Pierre que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux, saint de l'agneau. Je relis encore le verset 3. Bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis les affligés ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bénis les doux, car ils hériteront la terre. Et voici maintenant. Bénis ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous avons simplement une faim que Dieu a mise en nous. En écoutant le dernier cantique au deuxième couplet, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il n'y en avait pas encore quelques-uns qui hésitent, qui se contentent peut-être de regarder les autres vivre leurs expériences avec Dieu sans avoir eux-mêmes fait l'expérience de Dieu. Voici ce que dit le cantique 169 au couplet 2. À quoi te sert ton hésitation, ô âme? Le temps de la grâce s'écoule. Nul autre que Jésus ne peut bénir. L'avoir, c'est un gain éternel. C'est pourquoi Paul a pu dire, Christ est ma vie et mourir est mon gain. Que Dieu, comme cela a déjà été dit, soit avec nous et nous bénisse, nous parle, touche nos cœurs, nous gagne entièrement à lui, afin que nous n'écoutions pas à demi-cœur ou demi-oreille seulement, mais que nous puissions faire partie de ceux qui ont consacré toute leur vie au Seigneur et qui l'aiment. Et ce, comme il est écrit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, aimer ainsi sa parole, l'accueillir, la recevoir et nous aimer les uns les autres dans l'amour divin qui doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mes chers amis, lorsque nous parlons de la fin des temps et que nous replaçons la parole prophétique dans son contexte biblique, c'est une chose merveilleuse. Et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Mais savez-vous ce que cela signifie pour nous? Si toutes ces autres choses qui se produiront pour la plupart après l'enlèvement, se profilent déjà si visiblement sous nos yeux. À quel point alors l'enlèvement doit-il être proche? Et nous savons exactement ce qu'il faut pour être enlevé. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 25 que les folles n'avaient pas assez d'huile, qu'elles en manquaient et qu'elles ne purent entrer au festin des noces. La Bible nous éclaire sur tout. Et ce dont nous avons tous besoin, en effet, c'est d'une compréhension claire des concepts bibliques sur le plan doctrinal, mais aussi d'une expérience claire des choses que la Bible nous promet et que d'autres ont vécu avant nous. Si je demandais aujourd'hui, que signifie la sanctification? Je ne saurais pas combien de réponses j'obtiendrais ici. Celui qui a l'esprit catholique dirait, si quelqu'un reste seul et ne s'approche pas du sexe opposé, cela pourrait être saint. Oui, cela peut être saint pour un prêtre, mais pas aux yeux de Dieu. Le week-end dernier, j'ai assisté à un mariage près de Zurich, au cours duquel d'ailleurs les frères et sœurs Amann, qui sont également ici aujourd'hui, ont chanté de magnifiques chants et cantiques. Et là, et maintenant, et accrochez-vous bien. Ah, ils sont tous assis, dit frère Rousse. Il y a eu un mariage mais les mariés n'étaient plus tout jeunes. L'épouse avait 65 ans et l'époux 75, donc 75. Et ce fut un mariage magnifique. Tous deux ont déjà de nombreux proches qu'ils ont tous invités et ils n'avaient qu'un seul souhait, que je prêche l'évangile. Ils savaient déjà comment la vie doit être et voilà, des larmes ont coulé chez ceux qui ont entendu la parole. Ce que je voulais simplement dire, c'est ceci. Agissons et marchons de manière sobre, lucide et normale en tout point jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Que personne ne s'aventure sur un terrain glissant en pensant que maintenant que c'est vraiment proche, il n'y a plus rien à faire. Que celui qui veut se marier, se marie, bien vite. Et que celui qui veut faire quoi que ce soit, le fasse vite, car bientôt il sera trop tard. Quelqu'un m'a d'ailleurs dit, frère Franck, s'il est vrai que la venue du Seigneur est si proche, alors j'ai décidé de ne plus rester seul désormais. Cela aussi, cela existe. Ce sont des décisions claires que nous ne pouvons qu'accueillir favorablement. Mes chers amis, mais il s'agit de plus que cela ce matin, de bien plus. Il s'agit ce matin de ce que nous trouvions notre place en présence de Dieu, que nous recevions ce qui nous revient de plein droit et que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur nous et reposer sur nous. Comme déjà évoqué, si nous avons vu ou continuons de voir à quelle époque nous vivons et que les prophéties bibliques s'accomplissent effectivement autour de nous et que nous avons la parole prophétique comme une lumière éclatante qui brille dans les ténèbres, veillons alors à ce que nous n'ayons pas seulement entendu, mais aussi vécu ce que Dieu nous a promis. Et si aujourd'hui, nous avons tous véritablement faim et soif de Dieu, alors il nous rassasiera. Alors il nous abreuvera de délices comme d'un torrent. Ainsi est-il écrit, et nous nous délecterons des richesses de sa maison. Psaume 36, verset 9. Le Nouveau Testament commence par l'action surnaturelle de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et je tiens à vous dire clairement que c'est ainsi que cela se terminera, par une manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'épouse de l'agneau qui est devenue une avec l'époux et qui porte la parole de l'heure, sa nature et ainsi de suite. Mais je voudrais lire quelques passages bibliques à ce sujet afin que cela repose toujours sur des fondements bibliques. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, verset 35. Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Je lis ce verset pour une raison bien précise. Lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, quelque chose naît en elle. Le Saint-Esprit n'est pas du vent. Le Saint-Esprit est la puissance active de Dieu en ceux qui le reçoivent. Et alors, cela se produit lorsque l'Esprit de Dieu vient sur un homme. Il en résulte un produit. Il y a une conception, un engendrement. Et après l'engendrement vient la naissance, puis la vie divine se manifeste. Il faut simplement l'exprimer avec cette clarté pour comprendre ce que cela signifie. Lorsque la Bible parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu active, fécondante et créatrice en action à l'œuvre. Ce n'est pas seulement une démonstration, mais la puissance de Dieu réellement active, se manifestant, fécondante et créatrice en l'homme sur lequel vient le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ces jours. Beaucoup savent applaudir, frapper des mains, acclamer et pousser des cris de joie. Et je n'y vois aucun inconvénient. J'aimerais même que cela se produise parmi nous. Frère Rousse, qui sait si bien formuler les choses, l'a aussi joliment dit. Nous ne sommes pas ici à un enterrement. Certes, nous sommes morts, nous avons déjà été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Et nous souhaitons que cette vie divine de résurrection se manifeste dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit afin que le Christ lui-même puisse devenir notre vie. Dans Luc 21, en rapport avec la fin des temps et ce qui se passe, le Seigneur nous dit ce qui suit. Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Luc, chapitre 21, verset 34 au verset 36. Mais prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'alourdisse pas les excès de table, l'ivrognerie et les soucis de la vie et que ce jour ne vous surprenne à l'improviste comme un piège. Verset 35. Car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Verset 36. Veillez donc en tout temps et priez pour que vous receviez la puissance d'échapper à tout ce qui doit arriver, la puissance pour échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître devant le Fils de l'homme, recevoir la puissance pour échapper à tout ce qui doit s'abattre, à tout ce qui doit s'abattre sur le monde. Nous l'avons assez souvent entendu dans les prédications. L'Église sera enlevée avant que les coupes de la colère ne soient déversées et avant la grande et cruelle période de tribulation et d'affliction. Et c'est vrai. Mais pour être enlevés, nous devons recevoir de la puissance, la puissance. Cette puissance de Dieu qui agit alors, qui transforme le corps, qui nous enlève. Et cela ne doit pas non plus être un vent de doctrine, cela doit être une réalité divine. On peut peut-être exposer correctement la chose d'un point de vue doctrinal sans que les gens en aient fait l'expérience. Et je l'ai dit assez souvent en ce lieu. La différence dans le ministère de la prédication ou la fonction du prédicateur entre métier et vocation et appel est est très grande et vertigineuse. Il ne s'agit pas ici d'exercer une profession spirituelle, il s'agit de la proclamation de l'évangile éternellement valable par la puissance en vertu de l'appel divin. Et nous voulons, comme Paul l'a dit autrefois, veiller à ce que tous atteignent la perfection en Christ et comptent parmi ceux qui, au jour de que le Seigneur a établi, possèdent déjà la puissance nécessaire pour ensuite être enlevé de cette terre, vivre la transformation du corps et se présenter ainsi devant le Fils de l'homme avant que les jugements de Dieu ne s'abattent sur cette terre. En ce qui concerne la puissance, c'est toujours l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, le verset 8 nous dit « Vous recevez toutefois une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Vous voyez de quoi il s'agit. Il y avait aussi un grondement, le souffle d'un vent puissant, magnifique. Mais, pas seulement, c'est magnifique, n'est-ce pas? Mais pas seulement, il y avait encore plus, un grondement venu du ciel, comme un vent puissant, des langues de feu, magnifique. Mais il y a encore plus, il y avait encore plus. La puissance vivifiante de Dieu était venue dans le cœur des croyants. Il n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Il croyait en Dieu. Il croyait Dieu. Mais lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, la puissance d'en haut est descendue sur ceux qui étaient réellement devenus croyants. Mes chers amis, je le répète volontiers, nous ne voulons pas nous contenter ici d'une simple méditation sur la parole. Nous voulons vivre, expérimenter personnellement ce que Dieu nous a promis et ce qui est nécessaire pour prendre part à l'enlèvement. Je ne saurais en effet comment me présenter devant Dieu si la prédication n'avait pas été telle que chacun ait eu la possibilité de faire véritablement l'expérience de Dieu. Et j'ajoute volontiers, la prédication ne peut pas en être responsable. Le dessein de la rédemption de Dieu ne peut être prêché de manière plus claire et plus vraie, plus complète, plus élevée et plus profonde qu'il ne l'est à notre époque. C'est maintenant à nous, en tant qu'auditeurs, de passer réellement à l'action et de dire, Seigneur, si les choses suivent déjà leur cours et que nous pouvons même le voir, alors s'il te plaît, aide-nous maintenant et fais que tout réussisse. Et si nous élevons ensemble notre voix vers Dieu, ne répondra-t-il pas? Mais oui, il a promis. Lorsque mon peuple qui porte mon nom se rassemblera et regardera vers le ciel, vers ce lieu où j'ai placé mon nom. 2 Chroniques 6, verset 38, vous connaissez la prière prononcée lors de la consécration du temple de Salomon. Et si nous regardons aujourd'hui vers Jésus-Christ, en qui Dieu s'est révélé lui-même, ainsi que son nom et son salut, vous savez, nous étions à Zurich pendant 3 jours le week-end dernier. Et ce vendredi-là, c'était le jour saint des musulmans. Et voilà que de nombreux livres étaient exposés. Ils tenaient un rassemblement là-bas, notamment dans une salle de la Volkshaus. Et un titre disait, « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Et son nom est Allah. Nous l'avons compris autrement et reconnu autrement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et à cela, nous disons oui et amen. Mais ce seul vrai Dieu est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, Et son nom dans le Nouveau Testament est Yahshua. La forme grecque, c'est Jésus. Ce qui veut dire Yahvé Sauveur. Chers amis, nous sommes reconnaissants que Dieu ait ouvert nos yeux, reconnaissant qu'il ait fait don de la lumière, oui, qu'il ait donné la révélation. Car sans révélation, nous n'aurions rien vu ni rien entendu non plus. Il s'agit donc de recevoir la puissance qui peut aussi rendre vivants nos corps mortels. Et combien de fois l'avons-nous dit? La puissance divine doit d'abord nous transformer avant de pouvoir opérer la transformation de notre corps. Voici ce qui est dit de notre Seigneur Jésus dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. À savoir comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance, comment celui-ci a ensuite parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mes chers amis, cela en fait également partie. Nous avons besoin d'une église investie de pouvoir au sein de laquelle tous ceux qui sont sous l'emprise du diable soient délivrés, libérés. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai fait mes observations et je suis profondément attristé de voir que souvent même des croyants se laissent mener par le bout du nez par le diable et qu'ils se jouent d'eux. Les enfants de Dieu devraient consacrer entièrement leur vie à Dieu et le diable devrait s'en aller, sortir et fuir, et tous les démons perdre leur emprise sur ceux qui appartiennent à la troupe rachetée par le sang. Vous savez, c'était là le ministère de notre Seigneur, ici-bas. Il parcourait le pays, faisait le bien, libérait les gens, délivrait tous ceux qui ne pouvaient ni se délivrer ni céder eux-mêmes. Et voilà qu'une fois libérés, ils servaient le Seigneur avec joie. Il a même chassé 7 démons d'une femme, ce qui est déjà un nombre considérable. Luc 8, verset 2. Et voici qu'elle le servait avec d'autres pour qui il avait fait de même. Luc 8, du verset 2 au verset 3. Mes chers amis, les temps sont très graves. Et nous devons tous nous demander ensemble si Dieu a déjà pris ses droits dans notre vie. Je n'ai pas seulement transmis cette question. Elle s'adresse tout autant à moi, à tous ceux qui proclament la parole, à tous ceux qui l'entendent, à tous ceux qui y croient. Dieu a-t-il pris toute sa place dans notre vie? A-t-il pu accomplir ce qu'il a promis? Et si nous sommes alors sincères et constatons que ce n'est pas encore le cas, alors l'Esprit de Dieu vient sur nous, vient le repentir, vient la repentance, le regret, vient un désir. Oh Dieu, si ce n'est pas encore le cas, fais que cela le devienne, afin que tu puisses prendre tes droits en nous et par nous. Combien de fois l'avons-nous entendu? Dieu en Christ, Christ dans l'Église. La parole Christ signifie loin, loin de l'Esprit Saint, revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu ici dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. À savoir, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Comment celui-ci a ensuite parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Et ensuite, le verset suivant dit, verset 39, « Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a accompli dans le pays juif, ainsi qu'à Jérusalem. » Là, ce qu'il a accompli dans le pays juif ainsi qu'à Jérusalem. Là où quelque chose se passe, on le voit. Là où quelque chose se passe, on l'entend. On en est témoin. Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Mais il a dit exactement la même chose. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tout comme le Nouveau Testament a commencé par la puissance efficace de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que ce soit avec notre Seigneur lui-même ou avec l'Église à la Pentecôte, ce n'est pas le grand sermon qui est venu en premier, mais d'abord l'effusion du Saint-Esprit eut lieu. L'armement de la puissance divine afin que l'Église puisse accomplir et exercer le ministère auquel elle était destinée. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous le demande, n'avons-nous pas besoin en ce temps d'une double mesure de la puissance du Saint-Esprit? Y a-t-il jamais eu sur terre une telle incrédulité, autant d'athées, de négateurs de Dieu? Et qu'ils soient de moqueurs et qu'ils puissent être qu'à notre époque. Oh, puissions-nous l'accepter avec foi et honorer Dieu en croyant qu'il va, en effet, encore une fois, ébranler le ciel et la terre, ébranler les cieux et la terre et répandre son esprit d'une manière puissante. Je vous lis la parole du prophète Zacharie qui en parle en lien avec l'action du Saint-Esprit et la pose de la pierre de fête sous les exclamations « Salut, salut à lui ». Zacharie chapitre 4, l'une des plus belles images de tout l'Ancien Testament concernant l'Église de la Nouvelle Alliance. Zacharie chapitre 4, verset 2, puis à partir du verset 5. Zacharie chapitre 4, verset 2. Et il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or et une coupe d'huile se trouve au sommet et sept lampes y sont fixées ainsi que sept conduits d'alimentation pour les sept lampes qui s'y trouvent. Nous avons ici sous les yeux la période du Nouveau Testament. Un réservoir d'huile, un chandelier à sept branches et sept tuyaux qui descendent de ce réservoir d'huile vers les sept lampes de ce chandelier d'or. Cela signifie, au cours des sept étapes ou époques de l'Église du Nouveau Testament, des sept épîtres, des sept messagers et messages, quels qu'ils soient, le Saint-Esprit agit à nouveau sur terre. Et nous vivons justement dans le dernier âge de l'Église. C'est tout à fait clair et vrai à 100%. Mais là aussi, il y a un flux d'huile d'esprit tel qu'il est décrit et nous est montré ici dans cette image. Puis, à partir du verset 5, on lit Zacharie. À partir du verset 5, « Alors l'ange qui me parlait me donna la réponse suivante. Tu ne sais donc pas ce que cela signifie là-bas. Lorsque je répondis non, mon Seigneur, il me donna l'explication suivante. Verset 6. Voici la parole du Seigneur à Zorobabel. Ce n'est ni par les armées, ni par la puissance ou la force que cela s'accomplira, mais par mon esprit. Ainsi parle le Seigneur des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Et voici la suite. Au verset 7. Il mettra la pierre de fête ou la clé de voûte en place au milieu des acclamations. Salut, salut, ou grâce, grâce à lui. Il est question ici de l'achèvement et non du commencement. Le Christ est à la fois la pierre angulaire et la pierre de fête. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Mais ici, dans cette parole prophétique, il est question de la pierre de fête. Vous savez, c'est la dernière pierre. Sous le fait du toit, la première lorsque la construction doit commencer et la dernière lorsque la construction trouve son achèvement. Ainsi, à la fin du temps de grâce, quelque chose de tout à fait particulier se produira dans l'Église du Dieu vivant par la puissance du Saint-Esprit. Et tout comme à l'époque, les constructeurs habituels ont rejeté la pierre angulaire, de même ils rejetteront maintenant la pierre de fête, mais il existe, comme nous l'avons lu hier soir, un reste divin, une élection qui se range tout simplement du côté de Dieu, qui peut croire de tout son cœur et qui vivra ainsi ce qui nous a été promis dans la parole de Dieu. Nous chantons d'ailleurs dans le refrain, l'Esprit de Dieu agit à nouveau. Et nous ne nous contentons pas d'y croire, je crois pouvoir dire que c'est déjà l'Esprit de Dieu qui a commencé à agir, que c'est l'Esprit de Dieu qui a pris la parole et nous l'a révélée. L'Esprit de Dieu qui nous a déjà introduit dans la vérité et continue de nous la révéler. Je voudrais lire ce qui suit dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains en référence à notre Seigneur. Et n'oublions pas, il est le Fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes, et cela doit être proclamé sans cesse, engendrés de la même semence de la parole, du même esprit. Quand il a été dit autrefois, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Alors, si nous avons été engendrés et sommes nés de Dieu, c'est par le même Saint-Esprit. Et il n'y a qu'un seul Père dans les cieux. Et Jésus a dit, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ce sont ses paroles. Et nous sommes en effet devenus enfants de Dieu, même si ce que nous serons et comme nous serons en ce jour-là n'a pas encore été révélé, manifesté. Nous le verrons bien alors. Quand cela arrivera, nous le verrons bien. Ainsi, dans Romains chapitre 1, au verset 4, notre Seigneur nous dit, il est dit de notre Seigneur, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, Romains 1, verset 4, par sa résurrection d'entre les morts. Par lui, notre Seigneur Jésus-Christ, verset 5, nous avons reçu la grâce et le ministère d'apôtre afin d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi pour la gloire de son nom. Verset 6, vous aussi, vous en faites partie puisque vous avez été appelés par Jésus-Christ. Cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Nous aussi, nous en faisons partie. Nous vivons encore à l'époque de l'Église. Puisque nous abordons justement ce sujet, il y a une question en rapport avec ce qu'a dit Frère Branham. Et nous aurons encore quelques questions à répondre. Nous vous demandons simplement de les poser calmement. Nous avons encore quelques réunions. Dans tous les cas, tout doit toujours être replacé dans son contexte biblique. Des experts ont pourtant trouvé un passage où Frère Branham a dit Apocalypse 10 s'accomplit à l'époque où le septième ange de l'Église est sur terre. Et il en conclut, alors le Seigneur est descendu en tant qu'ange de l'Alliance et a posé un pied sur la terre et sur la mer. Et ils oublient fondamentalement que nous vivons encore aujourd'hui dans la même époque, à savoir dans le dernier âge de l'Église de Laodicée. Mais ils n'ont aucun discernement. Ils prennent un terme ou une déclaration et ne l'inscrivent pas dans le contexte biblique et déjà tout va de travers. Je suis très très reconnaissant à Dieu de nous avoir accordé la grâce de ne pas chercher notre propre direction ni de donner notre propre interprétation, mais simplement de suivre la direction divine sur laquelle nous marchons depuis le début sans présenter quoi que ce soit ni le formuler différemment, ne serait-ce qu'un tant soit peu. Dans ce passage, nous avons lu au verset 4, « Mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Cela le concerne. Mais en ce qui nous concerne, nous avons également lu au verset 4, « Par lui, notre Seigneur Jésus-Christ, verset 5, nous avons reçu la grâce et le ministère apostolique afin d'œuvrer à l'obéissance de la foi pour la gloire de son nom, non parmi tout, pour la gloire de son nom parmi toutes les nations païennes. » Puis alors encore un peu plus loin, verset 6. Puis allons encore plus loin. Vous aussi, vous en faites partie, puisque vous avez été appelés pour Jésus-Christ. L'avons-nous pleinement accepté dans la foi? Avons-nous pris conscience de la grâce que Dieu nous a accordée, celle de pouvoir faire partie en ce temps de ceux qui ne se contentent pas de croire, mais qui croient comme le dit l'Écriture? Dans Romains, au chapitre 15, nous lisons le verset 19. Romains, chapitre 15, verset 19. Par la puissance des signes et des miracles, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ainsi, en effet, que j'ai pleinement proclamé le message du salut de Christ depuis Jérusalem et dans un vaste périmètre jusqu'en Illyrie. Ailleurs, Paul dit, la parole ou l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais en puissance, dans la puissance. Et l'évangile de Jésus-Christ, donc ça c'est 1 verset 5, et l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour quiconque croit. L'avons-nous lu? Ainsi est-il écrit dans les Saintes Écritures. C'est la puissance de Dieu. Je le lis dans Romains chapitre 1, verset 16, que nous connaissons tous. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu qui sauve quiconque croit. Le juif d'abord, puis le grec, et quiconque veut croire. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que Dieu dispose d'une église à sa disposition par laquelle il peut à nouveau agir sur terre. Et alors nous devons tous avancer ensemble dans la même direction, dans le même esprit, sous la même instruction, sous le même enseignement et accepter par la foi ce que Dieu a promis. Je voudrais poursuivre la lecture de 1 Corinthiens chapitre 2, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Car votre foi ne doit pas reposer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Ou être fondée sur, selon la traduction. La parole des hommes et la sagesse humaine n'ont aucune valeur devant Dieu. Et Paul écrit, vous avez accueilli la parole que nous vous avons prêchée pour ce qu'elle est réellement, à savoir la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 13. Et cette parole de Dieu est confirmée par la puissance de Dieu en ceux qui l'accueillent dans la foi. Et c'est pourquoi il est écrit au verset 5, car votre foi ne doit pas reposer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Comme nous l'entendons sans cesse dans cette méditation, il est toujours question de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de ce que toi ou moi pouvons faire ou ne pouvons pas faire. Il s'agit de la puissance agissante du Saint-Esprit dans les membres du corps de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13, que nous avons tous été baptisés dans un seul corps par un seul esprit. Dans l'Ancien Testament, les rois et les sacrificateurs étaient oints. Et après avoir été oints, ou pendant l'onction, le Saint-Esprit descendait effectivement sur eux. Nous en avons des exemples particuliers, dont celui de David, laissez-moi vous le lire, car ce concept de l'Ancien Testament a ensuite été repris dans le Nouveau. Dans 1 Samuel, au chapitre 16, nous lisons les versets 1 et 13. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 et 13. Alors, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer, Saül ? Alors que je l'ai jugé indigne d'être plus longtemps roi d'Israël. » Remplis ta corne d'huile et mets-toi en route. Je t'envoie à Bethléem chez Isaïe. Car parmi ses fils, je me suis choisi un roi. Et voici la description de ce qui s'est passé. Tous étaient là. sauf celui que Dieu voulait, qui était encore auprès du troupeau. Il ne s'était pas du tout mis en avant. Les six autres étaient là, mais le dernier, celui qui comptait, n'était pas là. Au verset 13, nous lisons, Samuel prit alors la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Dès ce jour-là, l'Esprit du Seigneur vint sur David et resta sur lui par la suite. Samuel se leva et retourna à Rama. L'Esprit du Seigneur vint sur lui. Vous savez bien que dans l'Ancien Testament, Saül et David nous offrent une très bonne description de l'un dont la vie n'a pas été renouvelée, qui portait en lui la haine et tout le mal, bien qu'il fût oint, et de l'autre dont le cœur a été transformé. Vous savez à quel point Saül voulait nuire à David, comment il le poursuivait et le haïssait, le persécutait, comment il voulait le transpercer avec sa lance. Et écoutez ce que David, un homme sur lequel l'Esprit de Dieu est venu, a dit plus tard. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 et 2. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 et 2. David demanda, y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je veux lui faire miséricorde à cause de Jonathan. David demande s'il reste quelqu'un de la maison de Saül, de ceux qui l'ont persécuté, qui lui ont rendu la vie difficile. En reste-t-il encore un? Je veux lui faire miséricorde. Lui faire miséricorde. Bénis les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Mes chers amis, il y a des caractéristiques dans la vie d'un croyant qu'on ne peut ignorer ni passer sous silence. Et puis, un peu plus loin, il dit ici, je veux lui accorder ma miséricorde à cause de Jonathan, chapitre 7, c'est le verset 1. Maintenant, le verset 2. Or, dans la maison de Saül, il y avait un serviteur nommé Siba. On l'amena auprès de David et le roi lui demanda, es-tu Siba? Il répondit, oui, ton serviteur. Écoutez ce qui est dit maintenant, verset 3. Le roi demanda encore, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül à qui je puisse accorder la miséricorde? À qui je puisse accorder, écoutez ce qui suit, à qui je puisse accorder la miséricorde de Dieu? D'abord, je veux lui accorder ma miséricorde, puis n'y a-t-il donc plus personne à qui je puisse accorder la miséricorde de Dieu? Il faut recevoir de Dieu, si l'on veut et peut transmettre, que ce soit la miséricorde, l'amour ou quoi que ce soit d'autre. Mais ici, tout se résume en fait à ceci. Avec l'onction vint l'Esprit de Dieu. Et avec la puissance du Saint-Esprit, la transformation de cet homme. Et cela ne le dérangeait pas d'être persécuté. Au contraire, nous le voyons, il voulait faire miséricorde, il voulait transmettre la miséricorde reçue de Dieu à la maison qui l'avait persécutée. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Avons-nous reçu la miséricorde de Dieu? Alors transmettons-la. Avons-nous reçu l'amour de Dieu? Alors transmettons-le. Je voudrais lire rapidement un ou deux passages de Pierre, chapitre 3, en rapport avec la fin des temps avec le jour du Seigneur, avec la promesse du retour de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, chapitre 3, il a été dit bien des choses. Mais ensuite, il nous est dit ici au verset 11, 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque tout cela doit se dissoudre ainsi, comment doit-il en être chez vous en ce qui concerne l'épreuve d'une vie sainte et de la piété? Au verset 12, alors que vous attendez l'arrivée du jour de Dieu et que vous vous y préparez, jour auquel à cause duquel les cieux s'évanouiront dans le feu et les éléments se dissoudront dans la chaleur ardente. Nous avons compris ce qui a déjà été souligné. Il ne s'agit pas seulement de savoir que le temps est proche et que le jour pourrait survenir à tout moment, mais il s'agit de la préparation de l'Église du Dieu vivant. Préparation à ce jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Je voudrais lire à ce sujet le passage bien connu de 2 Timothée, chapitre 4, afin de nous encourager encore davantage par la lecture de la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, peut-être les versets 7 et 8. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi sans faillir. Verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Écoutez maintenant ceci, verset 8. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont aimé son avènement. Il y a des gens sur terre qui aspirent au retour du Seigneur. Et l'épouse et l'esprit crieront à la fin et diront, viens vite, Seigneur Jésus. Voici, c'est en fait un texte que nous prononçons parfois lors d'éloges funèbres quand quelqu'un nous est enlevé, mais Paul a pu dire de son vivant ce que nous répétons parfois après la mort de certains. Combien de fois ai-je moi-même lu ces paroles lors de funérailles? Paul avait déjà de son vivant la certitude en Dieu. Il connaissait et comprenait sa position en Jésus-Christ. En Jésus-Christ notre Seigneur, pour lui, la mort n'était qu'un passage du temps vers l'éternité. Il a pu dire de son vivant, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Combattons nous aussi pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Que les gens pensent de nous ce qu'ils veulent, qu'ils disent et écrivent ce qu'ils veulent, qu'ils en soient libres de le faire. Mais nous, nous voulons assumer la tâche de nous en tenir en union avec Dieu et la parole de Dieu à ce qu'il nous a promis. J'ai dû y réfléchir ces derniers jours. J'ai aussi relu brièvement après une longue période l'histoire de la compilation de la Bible, quand les chapitres ont été divisés, quand la division en versets a été établie et ainsi de suite, et combien de traductions dans combien de langues. Et puis je me suis dit, ce qu'un certain David a fait de mal, des millions de personnes à travers le monde l'ont entendu, elles peuvent tout relire. Je me suis dit à ce moment-là, pauvre David, c'est en fait dommage que tout cela ait été écrit. Et nous nous sentons parfois mal dans notre peau quand nous pensons que les gens ont vu, entendu ou appris quelque chose. La Bible est si vraie qu'elle rend compte des côtés lumineux et des côtés sombres. Et pourtant, nous n'avons absolument rien à craindre. Tout a été écrit. Et si parfois on dit ou même écrit quelque chose à notre sujet, très peu de gens en ont connaissance par rapport à ce qu'ils ont appris sur David et tous les autres hommes de Dieu de la Bible. Donc, si nous sommes morts avec le Christ, continuons à marcher avec lui dans cette nouvelle vie et achevons notre course dans la foi. Et si je demandais maintenant, qui a la certitude, comme l'écrit ici Paul, désormais, la couronne de la victoire m'attend. Alors, ainsi, il faisait partie de la foule des vainqueurs, qui, par le sang de l'agneau et pour l'amour de la parole de Dieu, ont vaincu et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Il faisait donc partie de ceux qui, de leur vivant déjà, avaient la certitude que la couronne de la justice leur était réservée. Mais il n'avait pas cette certitude seulement pour lui-même, mais aussi pour nous tous qui attendons l'apparition de notre Seigneur et nous réjouissons qu'il revienne pour nous prendre auprès de lui. Car il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi afin que vous soyez là où je suis. Résumons. Dieu agit par sa parole et par son esprit. Il agit de manière surnaturelle en ceux qui croient en sa parole et en particulier aux promesses contenues dans la parole. Nous l'avons répété maintes fois, l'Esprit de Dieu est venu sur Marie à cause de la promesse de la parole. Il y avait là la substance divine. La parole était là comme une semence, comme une promesse. Et l'Esprit est venu sur cette semence. Pas seulement le vent, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais l'Esprit en tant que puissance de Dieu est venu sur la parole de la promesse pour lui donner vie. La même chose s'est produite maintes et maintes fois et se produit encore de nos jours. Il existe une épouse qui a été mise à part des dénominations qui se met à la disposition du Christ pour recevoir sa parole de promesse révélée et pour faire ensuite l'expérience de la puissance vivifiante et créatrice de Dieu venant sur nous afin d'opérer en nous cette nouvelle vie divine. En avons-nous le désir réel que la puissance de Dieu maintenant vienne sur nous? Et quand elle viendra, une vie nouvelle jaillira, car c'est l'Esprit qui crée la vie. Et la parole de Dieu est esprit et est vie. Rendons donc gloire à Dieu dans la foi et disons, Seigneur, de même que tu nous as parlé et que tu nous as donné la parole de la promesse divine destinée à ces jours et que nous l'avons reçue dans la foi. Viens maintenant sur nous avec la puissance du Saint-Esprit. Crée en nous la vie divine. Est-ce que nous voulons prier ça ainsi aussi? Vous demandez cela, croire aussi et prendre Dieu à sa parole, prendre au mot, le prendre au mot. C'est ainsi que cela a commencé avec le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que cela s'achèvera avec l'Église du Nouveau Testament. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église du Dieu vivant pour faire de la parole entendue une réalité divine. Tout comme le Christ était la parole faite chair, ainsi la parole de la promesse doit devenir une réalité divine à travers nous. Et nous avons cette assurance. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que cela arrivera. Mais nous devons nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Cela aussi nous a été dit en introduction. Nous devons ouvrir notre bouche en louange afin que Dieu puisse vraiment la remplir. Seul un vase ouvert peut être rempli. Oh, puissions-nous trouver grâce devant Dieu, puissions-nous nous ouvrir et que chacun oublie l'autre pour rechercher la communion avec Dieu jusqu'à ce qu'il établisse la connexion avec lui, puis le loue et le glorifie et que l'Esprit de Dieu se penche véritablement sur nous et crée une nouvelle vie divine en chacun de nous, à la gloire et à l'honneur du nom du Seigneur. Pouvons-nous tous croire selon la Bible? Pouvons-nous vraiment croire que Dieu mènera à bien l'œuvre qu'il a commencée? Faisons partie de ceux qui ont simplement la certitude de la foi, parce que Dieu nous l'a donnée. Nous avons également entendu hier soir les termes incrédulité et désobéissance. Nous voulons croire, comme le dit l'Écriture. Et alors des fleuves d'eau vive couleront. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jean l'a annoncé. Je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que la sainte onction, le feu saint de Dieu, que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu descende sur nous et nous revitalise, véritablement nous vivifie et accomplisse en nous tout ce dont nous avons besoin pour servir le Seigneur tant que nous sommes ici et dont nous aurons également besoin lorsque nos corps mortels seront transformés en immortalité. Que cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ, selon la parole de l'apôtre, je veux le connaître et la puissance de sa résurrection devienne une réalité divine, voire notre expérience personnelle de Dieu par la grâce. Amen. Levons-nous et rendons grâce au Seigneur. Inclinons la tête et prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, certains se sont avancés devant, non pas pour rencontrer un homme, mais pour vivre une expérience avec toi. Ô Seigneur, tu connais les différents besoins, les demandes, les prières et les préoccupations. Nous te les confions toutes, Seigneur fidèle. Tu es toujours le même aujourd'hui. Tu sauves, tu libères, tu guéris, tu baptises d'esprit et de feu. Tu es présent pour confirmer ta parole auprès de ceux qui y ont cru. Seigneur bien-aimé, nous devrions tous venir à toi, en fait. Lever nos mains et nos cœurs vers toi. Oh Dieu, nous n'avons jamais eu autant besoin de toi qu'en ce moment. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous. Pardonne toutes nos fautes, tous nos péchés, toute notre désobéissance, toute notre incrédulité, toutes nos transgressions. Lave-nous dans le précieux sang de l'agneau. Purifie-nous, ô Seigneur, afin que nous devenions blancs comme la neige, comme si nous n'avions jamais péché. Nous te remercions pour la puissance du sang en qui réside notre salut et notre pardon. Nous te remercions pour le salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te remercions pour ta parole révélée. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit qui descend en ce moment même, maintenant, pour créer une vie nouvelle et faire naître la parole entendue. Nous te rendons grâce. Nous t'adorons et nous louons ton nom merveilleux. Seigneur bien-aimé, je t'en prie encore une fois, accorde à tous ceux qui sont venus à l'avant ce qu'ils ont demandé, ô Dieu. Confirme en eux ta parole comme vraie, afin qu'ils puissent partir d'ici joyeux et libres, rachetés, bénis, guéris, en te louant et en te rendant gloire. Alléluia! Seigneur, notre Dieu, nous te rendons ensemble toute gloire au nom saint de Jésus. Amen.